RCF.
Bonjour, aujourd'hui dans Vie de famille, nous allons parler d'un sujet qui fâche, le rangement. Existe-t-il des recettes pour ranger et organiser son intérieur ? Peut-on ranger une fois pour toutes ? Comment devenir une fidélogie ? Et pourquoi d'ailleurs le faire ? 62% des Français aspirent à un espace de vie plus ordonné. Mais tout le monde n'a pas l'esprit pratique pour y arriver. Ce qui explique d'ailleurs sans doute le succès des coachs en rangement et les blogs d'organisation personnelle. Et justement, aujourd'hui, je reçois une professionnelle de l'organisation et du rangement, Pauline Levasseur. Bonjour.
Bonjour Alban.
Alors, je vous remercie Pauline d'être avec nous sur RCF Hauts-de-France pour Vie de Famille. Alors, vous êtes ce qu'on appelle en langage anglo-saxon une home organizer. Cela fait 13 ans que vous pratiquez ce métier. Vous avez même créé votre enseigne qui s'appelle By Pauline avec des franchisés. Et vous êtes également présidente de la Fédération française des professionnels de l'organisation. C'est donc très sérieux. Mais aussi, c'est un très nouveau métier. Est-ce que c'est ça ?
Oui, c'est un métier qui est très récent en France. Ça existe depuis un petit moment outre-Manche. C'est assez développé dans d'autres pays où il y a déjà des grosses fédérations qui ont des centaines de membres. En France, ça démarre un petit peu plus doucement, mais ça s'est accéléré là ces dernières années. Avec l'arrivée de la papesse du rangement Marie Kondo en 2016, une japonaise qui est très connue dans son domaine, et avec des nouvelles séries sur les télés autour du rangement, de l'organisation et la vie de la maison, qui je pense est un sujet au cœur de l'actualité depuis les récents événements.
Mais alors pourquoi effectivement est-ce si difficile de ranger ? C'est si difficile alors, de ranger ?
C'est pas difficile de ranger. La seule chose, c'est qu'on n'a pas toujours les bonnes méthodes. Donc, on s'éparpille beaucoup. Il y a aussi un côté un petit peu insurmontable. Parfois, on n'a pas l'énergie de s'y mettre. Il y a des moments de vie où on met ça un peu de côté et finalement, après, on ne sait plus par où commencer.
Est-ce que ce ne serait pas l'effet un peu procrastination de vouloir remettre à demain, justement ?
Complètement. C'est pas quelque chose de prioritaire dans la vie, sauf qu'en fait, l'impact, au fur et à mesure, il peut être important. Y a rien de grave dans le rangement, mais c'est vrai qu'il faut pouvoir s'y mettre et puis s'y mettre avec les bonnes méthodes. Donc, c'est pas toujours aisé de trouver la dynamique ou le bon point de départ.
Et alors, est-ce que le bazar dans nos maisons reflète le bazar de nos êtres intérieurs ou pas, à votre avis?
Non, moi, j'irais pas jusqu'à dire ça, Alban.
Non, quand même pas. Bon.
Non, je pense que oui, quand on a une maison rangée, un univers qui est rangé, on se sent plus léger parce qu'on a moins de charges, on a moins de choses à penser, on sait que les factures sont réglées, que les choses sont à leur place. Donc oui, ça allège l'esprit. Par contre, je suis pas sûre que ce soit le reflet de notre âme. Hein.
Non,
voilà, on a tous des moments où on a plus d'énergie que d'autres, c'est tout.
Et alors, qu'est-ce qu'on recherche justement à travers le rangement ? Parce qu'effectivement, vous dites plus. Alors, plus de quoi finalement ?
Alors, la première chose qu'on pense quand on pense rangement et organisation, c'est gagner de la place.
Ouais.
On est on a de moins en moins de place. La deuxième chose, c'est aussi gagner du temps. On a de plus en plus de flux d'informations, etc., d'objets. Et ça fait perdre beaucoup de temps dans le quotidien. Donc, en fait, c'est un peu une recherche d'efficacité d'abord. Et puis ensuite, il y a un côté bien-être qui est de plus en plus fort, de comprendre notre rapport à l'objet, d'être bien avec son intérieur, que ce soit fonctionnel, efficace, de ne pas perdre du temps dans les petites tâches quotidiennes. Ça, c'est quelque chose qui fait gagner du bien-être parce que on a plus de temps pour se recentrer sur les choses importantes.
Et alors, pourquoi est-ce qu'on fait intervenir une tierce personne pour ça ? Est-ce que, manifestement, ce n'est pas inné ?
Alors non, ce n'est pas inné. Il y en a à peu près que 2% de la population qui estime maîtriser l'art du rangement déjà. Donc, on est très peu à être des vrais, on n'ose pas dire maniaques, mais on est un petit peu psychorigide quand même. On adore ranger, organiser.
Ouais.
Je pense que tout simplement, il y en a qui sont... ont une motivation en eux, qui peuvent le faire. Ensuite, il y en a d'autres qui ont des moments de vie où c'est compliqué. Voilà, il y a des moments de vie difficiles et ça, on peut pas tous le faire. Il y en a aussi qui savent se dire, voilà, c'est pas ma compétence majeure, j'ai pas envie de passer du temps à faire, donc je délègue. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que de faire avec quelqu'un qui a un œil extérieur, parfois ça permet d'aller plus loin. C'est-à-dire que quand on ferait du rangement nous-mêmes, on trierait peut-être moins bien, on garderait peut-être plus de choses, et puis on n'irait pas jusqu'au bout de la réflexion pour mettre en place des process qui soient vraiment faits de A à Z pour qu'il y ait des déroulements sur tous les types d'affaires dans la maison. Donc le professionnel, il va permettre à ceux qui n'ont pas l'énergie de s'y mettre, il va permettre à ceux qui n'ont pas les méthodes d'avoir des méthodes, et il va aussi permettre à ceux qui ont envie d'aller plus loin que ce qu'ils feraient eux-mêmes, d'aller au bout du bout du rangement et de vraiment pouvoir tout remettre à zéro, surtout pour que ce soit pérenne. Parce qu'il n'y a pas vraiment de magie dans le rangement. Il faut une bonne base de départ, mais après, il faut entretenir au quotidien.
Et alors justement, nous, ce qu'on a envie de savoir assez rapidement, c'est comment est-ce que... qu'est-ce qui est mis en place au démarrage du rangement ? Quelle est la méthode, en fait ?
Oui. Alors, la première chose qui est très importante dans le rangement, c'est le tri. On a tous un rapport à l'objet qui est différent. C'est pas évident de se rendre compte si on est attaché, peu attaché, très attaché aux objets. Et ça, il faut en prendre conscience très vite. Donc, le premier point, c'est de pouvoir trier ses objets.
J'ai l'impression qu'il y a trois catégories de personnes dans le domaine par rapport aux objets, justement, ceux qui gardent des objets du passé pour rester un peu dans le passé. Enfin, vous connaissez un peu les typologies ceux au contraire qui sont angoissés, qui amassent, enfin je sais pas, il y a du travail apparemment.
Ouais, il y a pas mal de travail. Alors après moi je suis pas forcément psychologue, mais pour s'amuser on avait essayé de dessiner des catégories. On avait le stalker écureuil, c'est celui qui a besoin de faire des réserves pour se sentir rassuré. On a le phobique de la poubelle, celui qui a peur de jeter au cas où, ça peut toujours servir. On avait aussi le kid maniaque, celui qui a toujours plein de choses pour les enfants, etc. Et puis on a le serial collectionneur, celui qui a des catégories d'objets qu'il adore. Donc oui, on peut avoir différentes formes d'attachement aux objets qui font que pour certains, cette partie tri, elle est plus difficile que pour d'autres, parce qu'il y a cet attachement. Alors, on peut parler de la symbolique des objets.
Ouais.
Ce que je pensais, c'est que je me suis rendu compte de ça avec mon papa, par exemple, Alban. Il a énormément de livres. C'est quelqu'un qui est très attaché aux livres. J'avais beaucoup de mal à lui faire désencombrer, à trier ses livres, parce que ça encombrait un peu son logement.
Vous en souffrir davantage encore.
Et puis, un jour, j'ai compris que le livre, pour lui, c'était pas juste un objet du papier, des écritures. En fait, pour lui, c'était le savoir. S'il n'avait pas fait d'études, il était autodidacte et il avait tout appris dans les livres. Et donc, en fait, à partir du moment où j'ai compris que c'était du savoir, j'ai compris que pour lui, c'était impossible de jeter du savoir à la poubelle.
Oui, c'est
donc, je lui ai proposé de donner à des associations pour lutter contre l'illettrisme ou des choses comme ça, tous ses manuels, toutes les choses qu'il avait pu garder. Et effectivement, ça l'a libéré parce qu'il avait l'impression de transmettre du savoir.
Du coup,
c'est complètement différent.
Ça a donné sens.
Et ça, la symbolique des objets, elle est différente pour chaque personne, donc c'est pas évident de la comprendre. Mais ça peut être une piste pour ceux qui sont fort attachés aux objets.
Donc ça libère aussi l'esprit. Enfin, on peut imaginer que votre papa, il a été libéré de cet attachement. Enfin, ça rend plus libre, forcément.
Non, complètement. Forcément. Ça libère l'esprit, forcément.
Après, dans l'extrême, il y a aussi des pathologies. Alors, vous m'avez bien expliqué qu'effectivement, vous n'étiez pas psychologue, mais il y a quand même deux grandes...
Aujourd'hui, il y a deux grandes pathologies dans le rapport à l'objet. On a ce qu'on appelle la sylogomanie. Donc, c'est les gens qui font de l'entassement compulsif. Ça peut aller à des stades assez extrêmes, comme le syndrome de Diogène, où ça désociabilise complètement, ça crée de l'insalubrité, etc. Et puis, on a aussi de l'oniomanie, qui est l'achat compulsif. Ce sont aussi, ça, c'est des choses qui doivent être prises en charge par des professionnels de la santé avant que nous, on puisse intervenir, parce qu'il ne faudrait pas non plus traumatiser ces personnes qui ont créé une sorte de rempart affectif grâce aux objets, en fait.
Sachant qu'effectivement, ce n'est pas une maladie, c'est un syndrome. Hein, donc, ça s'accompagne, en fait, plus que ça ne se soignerait par des médicaments.
Et alors, ça reste une minorité, Alban. Majorité des gens n'ont pas de
Si on les nomme pas ici, ce serait dommage. Alors, on va en revenir quand même à ce qui nous intéresse. Donc, une fois qu'on a vu ça, comment on était attaché et qu'est-ce qu'on faisait de tout ce qu'on avait chez nous et pourquoi est-ce qu'on les avait d'ailleurs, on se met au rangement. Alors, racontez-nous un peu. Est-ce qu'il y a une méthode du coup ?
Oui. Donc, la première étape, on va faire un grand tri. Voilà. La deuxième étape, ça va être de désencombrer, c'est-à-dire que tout ce qu'on a trouvé, qui n'avait plus d'utilité ou plus d'attachement dans la maison, on va voir qu'il y a plein de manières de désencombrer. Donc là, vous pouvez donner, recycler, réparer, vendre. Il y a énormément de manières différentes. Alors, il y a un site qui est très pratique qui s'appelle Longue Vie aux Objets. C'est un site qui a été créé par l'ADEME, qui est l'Agence gouvernementale pour la transition écologique. Et sur ce site, vous allez pouvoir trouver toutes les associations locales autour de chez vous qui peuvent vous aider à désencombrer intelligent. Et ça, ça déculpabilise aussi beaucoup de désencombrer. On a des applications aussi, comme Momox pour les livres. Donc, vous pouvez scanner justement vos livres et voir s'ils sont rachetés, à quel prix, et faire des colis pour récupérer un petit peu. Ils sont vendus ensuite.
Ouais, mais il faut prévoir du temps.
Donc ça, ça aide beaucoup. Mais ça va vite. Une fois qu'on a pris le pli, ça va vite.
D'accord.
Et puis, vous avez également une autre application qui s'appelle Give. C'est une sorte de bon coin où on peut donner des affaires comme ça. Alors, je vous conseille de faire des lots, justement, pour aller plus vite, Alban. De pas faire un lien par objet, mais pas, par exemple, dire, voilà, j'ai un sac de vêtements taille un tel. Voilà, c'est plus, quand même, ça va plus vite si on fait des lots.
Ah oui, c'est des bonnes idées quand même. Donc, déjà, je pense qu'on a moins l'impression de gaspiller, en fait. Quand
complètement. Ouais, c'est vraiment de travailler dans une économie circulaire et de faire en sorte que les choses qui ne servent plus puissent servir à d'autres.
Donc dans notre premier tri, on a vu ce qu'on gardait et ce qu'on gardait pas en fait. Hein. On est d'accord.
Oui.
Dans ce qu'on gardait pas, exactement. On a vu qu'il y avait effectivement ce qu'on donnait, ce qu'on recyclait, ce qu'on réparait, ce qu'on vendait, etc. Et après ça.
C'est la troisième étape.
Ouais.
C'est vraiment la troisième étape là où il va falloir donner une place pour chaque chose. C'est important d'avoir un seul endroit par typologie. Par exemple, je vous donne l'exemple des fournitures scolaires. Chez mes clients, j'en retrouve dans l'entrée, dans le bureau des parents, dans les chambres des enfants. Et puis quand le soir, il y a un enfant qui arrive qui dit « Ah bah, j'ai besoin d'une gomme pour aller demain à l'école », on est bien embêté parce qu'on ne sait pas où en trouver. Donc là, effectivement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout centraliser à un seul endroit, tout ce qui est réserve. Et on gagne beaucoup de temps parce qu'on sait tout de suite trouver, on sait ce qu'on a en réserve. Et quand on en a trop, on sait tout de suite où ranger. Voilà.
Donc ça, c'est,
donc ça, c'est vraiment le principe de base.
Ouais. Donc ça, c'est de l'ordre. Hein. C'est du domaine de l'ordre. Oui. C'est d'avoir avoir le sens de l'ordre, en fait. Hein.
Complètement.
Et alors,
ça se réfléchit. Ça se réfléchit. Il ne faut pas le faire comme ça vient. Il faut le faire en fonction de l'usage, en fonction de l'accessibilité, que ce soit toujours très visible, pour que tout le monde puisse s'y repérer.
Oui, parce qu'on vit rarement seul dans sa maison et que donc, c'est à usage collectif.
Complètement.
Donc, il faut y penser dans ce sens-là. Bon, alors, je vais faire une petite transition pour dire que vous êtes toujours sur RCF Hauts-de-France dans Vie de Famille, en compagnie de Pauline Levasseur, qui est home organizer, et donc spécialiste de l'ordre et du rangement. Et donc, on a vu un peu les différents mal-être ou plutôt notre attachement au bien matériel, comment on les a développés. Comment on peut effectivement trier? Donc ça avait l'air très simple en entendant Pauline. Ça a l'air, on fait un tri, on désencombre, on réorganise. Mais alors par quoi on commence? On commence par le grenier, par la pièce à vivre?
Alors moi, je vais vous conseiller de commencer par une pièce qui est une pièce clé, qui est l'entrée. Pourquoi? Parce que l'entrée, c'est une pièce, c'est une zone tampon entre l'intérieur et l'extérieur. Donc en général, dans l'entrée, c'est pas des objets auxquels on est très attaché, mais c'est des objets qui sont fort utiles. Et cette entrée, elle va pouvoir nous permettre de dire qu'est-ce qu'on va sortir, qu'est-ce qu'on va conserver ou pas. Donc moi, c'est assez pratique dans mon rangement de commencer par là. Et puis, je vais pas commencer par les choses trop affectives tout de suite.
Oui, c'est voilà. Ça.
Ensuite, je vais travailler les zones de stockage, c'est-à-dire s'il y a des cagibis, des caves, des greniers, etc. Parce que je sais que si je libère beaucoup de place, j'aurai peut-être la possibilité de déplacer des choses qui sont dans les zones de vie dont on n'a pas besoin tous les jours. Je dis n'importe quoi, par exemple une housse avec des affaires de ski qui serait dans le placard de l'entrée,
ça,
on n'a pas
idée.
Besoin tous les jours.
Effectivement.
Donc autant la déplacer dans une vraie zone de stockage comme le grenier ou la cave. Voilà. Et dans les caves et les greniers, j'ai beaucoup de zones, ce que j'appelle en rigolant pré-poubelles, parce qu'on les a mis là en disant on n'en a plus besoin, mais finalement elles encombrent pour rien. Donc voilà. Donc je commence souvent par les zones comme ça de stockage où je vais pouvoir libérer de la place. Et après je vais faire les espaces de vie. Je vais souvent faire la cuisine. Le salon, et je vais finir par les chambres parce que c'est là où il y a le plus d'affectifs en général, ce sont dans les chambres.
Donc vous y allez au rythme aussi de vos clients, j'allais dire, et de leur capacité à vous laisser entrer dans leur univers en fait, hein. C'est une sacrée confiance qu'on vous accorde quand vous rentrez dans les maisons.
Ah oui, on rentre vraiment dans l'intimité des clients. Alors on a deux types de clients, on a des clients qui ont du temps et qui ont envie d'apprendre. Dans ce cas-là, on va vraiment faire avec. Ça va vraiment être un travail à quatre mains. Qu'on peut faire aussi au fur et à mesure. On n'est pas obligé de tout faire d'un coup parce que pour certains, c'est beaucoup d'émotions. Et puis, on a d'autres clients qui ont vraiment envie de repartir à zéro, qui ont un peu moins de temps. Et dans ce cas-là, on va venir un petit peu plus en mode service. Mais il y a quand même des étapes de validation parce qu'on ne désencombre rien sans vérifier avec eux.
Bah oui, c'est voilà. Ça.
Mais là, on est beaucoup plus autonome quand même. Parce que sur la phase de tri, on peut avoir une certaine autonomie. Sur la phase de rangement aussi. Par contre, sur la phase des encombrements, on a besoin de validation. Voilà. C'est aussi le cas, on travaille souvent aussi tout ce qui est classement de papier.
Alors, c'est ce que j'allais dire. Donc, on voit bien, donc, effectivement, j'avais juste envie de revenir quand même sur des pièces comme la cuisine. On peut s'imaginer quand même que la cuisine, c'est assez ordonné, quoi. Enfin, il y a la vaisselle du petit déjeuner, il y a la vaisselle du déjeuner, il y a les casseroles. Enfin, a priori, ça se mélange pas tout ça, si.
Bah, si.
Puisqu'on met dans le frigidaire, on met pas dans le placard, normalement, si.
Non, quand même pas. Non, dans les cuisines, déjà, on n'a pas toujours des cuisines qui sont bien conçues. Donc, ça participe aussi au désordre ambiant. Après, on a aussi des cuisines qui sont beaucoup trop surchargées. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gadgets. Hein. Mmh. On peut avoir, vous savez, le coupe à billes de melon, le coupe pamplemousse, le coupe ananas, le coupe pomme, le coupe raclette, le coupe œuf, et je peux vous en dire encore pendant 10 minutes.
C'est dingue.
Alors qu'il suffit d'avoir des couteaux bien affûtés et on n'a pas besoin de tous ces gadgets.
Ouais, mais ils sont tellement jolis. Hein.
Voilà. Ça sert à rien.
Et puis, je sais pas, forcément, celui qui aime les œufs, on va lui offrir les coupes. Enfin, c'est terrible, ça. Et alors, donc, effectivement, il y a quand même, ce que j'avais bien aimé aussi, enfin, votre approche de la consommation, en fait, à partir de là, c'est qu'il y a peut-être une prise de conscience de vos clients sur la surconsommation ou la consommation inutile, enfin, tout notre made in China
ans,
qui est très encombrant, finalement.
En 13 ans de métier, je vois, par exemple, le nombre de jouets dans les chambres multiplié quasiment par 2 ou par 3. C'est assez affolant. Le nombre d'objets entrants augmente énormément. Et nous, on est au cœur de ça parce qu'on voit tous ces objets entrants qui vont aussi pénaliser l'ordre, l'organisation.
Mais ça veut dire que il y a une prise de conscience de vos... Enfin, vous amenez vos clients à essayer d'être un peu plus raisonnables dans le domaine.
Complètement. Alors nous, on va leur apprendre à faire des achats raisonnés. Pour justement maintenir l'ordre, parce que ça fait partie de notre job, c'est que l'ordre soit maintenu, mais s'il y a trop de choses qui rentrent, ça ne marche pas. Donc on travaille beaucoup sur cette notion d'objet entrant. Et entre autres, j'utilise une méthode qui a été créée par deux personnes qui s'appelle la méthode bisou. C'est une méthode, quand on achète un objet, on doit se poser 5 questions. La première question, c'est le B de bisou, mais c'est aussi le B de besoin. Est-ce que j'ai besoin de cet objet? Après, il y a le I de immuable, immuable. Après, on a le S de semblable.
C'est immédiat.
Immédiat, voilà, pardon. Le I de immédiat, le S de semblable, le O de l'origine, justement. Est-ce que ça vient d'un produit local avec du coton bio ou est-ce que c'est quelque chose vraiment de moins écologique qui vient de l'autre bout de la planète? Et le U de utile. Et si on arrive à se poser à chaque fois qu'on a un objet ces 5 questions, forcément, on va énormément limiter nos achats pour se recentrer sur les choses qui sont vraiment utiles et dont on a vraiment besoin.
On va devenir très riche, enfin avoir beaucoup d'épargne.
J'ai beaucoup de clients qui me disent qu'ils font des économies après notre passage parce que un, ils ont conscience de ce qu'ils ont. Donc déjà, quand on a conscience de ce qu'on a, on achète moins.
Oui, parce que
ensuite, ils utilisent mieux leur stock. Parce qu'ils ont retrouvé des stocks, on crée des réserves à des endroits précis comme les produits de beauté, les réserves alimentaires, etc. Là, c'est aussi
donc on rachète pas des dentifrices toutes les semaines, mais
exactement. Donc c'est vrai que ça a un vrai impact là-dessus, et puis c'est un impact écologique aussi. Par exemple, moi dans ma famille, on a décidé d'arrêter de se faire plein de cadeaux, donc on ne fait plus de cadeaux. Par contre, on s'organise une fois par an, une semaine de vacances ensemble. Alors c'est vrai que c'est un peu bizarre au début de plus avoir de cadeaux faites. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on se fait des petits bons ou des petites images ou des petites photos, des trucs comme ça, un peu moins matériels.
Des créations personnelles.
Et et on met notre budget dans une semaine de vacances tous ensemble. Et finalement, on crée des souvenirs, on crée des choses vraies et on n'encombre plus les maisons. Donc comme ça, j'évite de mettre du bazar chez mes proches.
Et du coup, ça me fait penser aux enfants quand même. Eux, bon, forcément, ils vont être un peu déçus, mais en même temps, ils vont passer des bons moments. Et du coup, est-ce que les enfants ont besoin d'être éduqués aussi dans le domaine du rangement?
Oui, alors le rangement, ça s'apprend. Clairement, c'est quelque chose qui s'apprend. Il faut l'apprendre de manière ludique. Moi, je le vois bien que quand je fais aussi les enfants, ils ont aussi un attachement affectif à leurs parents et aux objets qu'ils ont eus. Donc devant leurs parents, les parents vont dire oh, non, non, ça, ils veulent absolument le garder, ils voudront pas s'en débarrasser. Puis dès que les parents sont dans la pièce d'à côté, c'est oui, ça c'est un truc de bébé, j'en ai plus besoin, je peux le donner à ma petite sœur. Ils ont ce côté très généreux de vouloir donner à d'autres enfants, à leurs petits frères et sœurs. Donc pour la majorité,
Eux
je
n'ont
dis
pas
pas
encore
tous, mais la
développé
majorité des
de
enfants,
pathologie trop importante par
non.
rapport à l'objet, en fait. Ouais.
Ouais,
Et donc, faut en profiter.
ils ont une relation simple en fait, donc j'en profite, je
Donc,
passe des bons moments
pour le
avec eux,
tri, c'est
et
pas
puis surtout leur
compliqué avec eux.
montrer, et leur montrer de manière ludique,
Et après,
et puis
donc.
leur faire faire les étiquettes par exemple sur les bacs, parce qu'il faut qu'ils aient des bacs accessibles, pratiques à repérer. Parce
Oui,
que
parce
si vous
que.
leur dites, bah range ta chambre, mais que en fait c'est infaisable parce que ils n'ont pas le matériel nécessaire qu'on leur a jamais montré, ils peuvent pas y arriver.
Oui, ça, c'est vrai
Donc
que
là, il y
c'est.
a un petit moment qui est important, c'est de passer un petit peu de temps avec eux pour juste leur montrer régulièrement comment on fait pour remettre dans chaque bâche pour séparer. Jusque 5-6 ans, c'est un peu difficile, ils mélangent, donc il faut refaire régulièrement. Et à partir de 6-7 ans, j'ai vraiment des enfants qui arrivent à être des pros du tri, et ça fait vraiment plaisir à voir, quoi. Moi, mes neveux, souvent, me sollicitent parce qu'ils aiment bien ce moment que je passe avec eux à ranger.
Et alors justement, vous parliez des bacs et des étiquettes et des voilà, parce qu'on vit ensemble dans une maison, donc on a intérêt effectivement vraiment à mettre, je sais pas, couteau de cuisine, je sais pas quoi, fourniture
Alors l'étiquette,
scolaire.
ça peut paraître un petit peu too much, mais en fait c'est vraiment essentiel parce que tout le monde n'a pas la même mémoire et la même vision de l'espace. Et donc tout le monde ne mémorise pas aussi bien qu'on pourrait le penser où sont les objets qu'on a rangés.
Est-ce qu'il y a
Et
une
puis il y a un peu de
différence
mauvaise volonté, hein.
homme-femme là-dedans?
Un peu de
Est-ce
mauvaise
que
volonté.
les femmes sont plus naturellement ordonnées, ont
Alors,
plus facilement une vision dans l'espace que les hommes ou pas
j'ai
spécialement?
un peu l'impression. Et pas c'est pas
C'est pas flagrant.
flagrant.
D'accord.
Ouais, un peu plus, je suis d'accord avec vous, c'est l'impression que ça me donne, qu'elles arrivent mieux à voir les objets, à passer à côté des choses en les voyant.
Ah bah ça c'est sûr,
Les hommes
hein.
font plus facilement abstraction. Maintenant, il y a de plus en plus d'hommes qui ont besoin d'ordre, il y a quand même beaucoup
Ah
de
bah
femmes
ça,
qui
qu'on en
n'ont
a besoin, ça c'est
pas voilà.
sûr, autant les uns que les autres, hein, ouais. Ah ouais. Et alors du coup, justement, vous aviez évoqué l'histoire de la paperasserie. Vous faites
Oui.
de l'accompagnement spécifique pour pouvoir ranger tout ce flux effectivement
Oui.
de papier qu'on doit garder d'abord, plus tous ces différents arrivages, c'est-à-dire soit par la poste, soit par
C'est
l'ordinateur. Enfin,
ça.
donc là, c'est quand même, c'est vrai que ça devient franchement compliqué.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on peut
Alors,
faire?
qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, la base, c'est aussi de ne pas avoir trop, parce que souvent on a beaucoup trop de papier, donc on en revient à la même première étape qui est le tri. Donc
Ouais.
quand on arrive chez nos clients, on va regrouper tous les papiers au même endroit, parce que souvent on a plusieurs endroits, et on va désencombrer énormément. Vous avez sur monservicepublic.com la liste de toutes les dates de conservation des documents. Voilà, vous savez qu'une facture d'eau, c'est 5 ans,
Enfin, moi,
etc. Les
honnêtement,
impôts,
si on me
c'est
demande pas de le
3 ans,
garder,
voilà.
le courrier, je le garde pas, hein, franchement.
Eh ben, ne le gardez pas,
Déjà, je sais pas
ne
quoi
vous
faire pour le
embarrassez
garder,
pas
alors.
avec.
Et alors après, il y a effectivement quand même une méthodologie, certainement. Enfin, je pense qu'on sortira pas du papier aussi vite que ça, parce que, en
Non, non,
fait.
non. Il y a quand même des bases à avoir. Et puis après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place une arborescence avec justement un classement et une dénomination des fichiers et des dossiers qui soient clairs et précises pour le client. Et après, on va tout retravailler avec un système de boîte. On va éviter
Ouais.
les classeurs qui sont parfois très fastidieux. Et puis, on va essayer de trouver la solution la plus simple avec le moins de manutention possible. C'est vraiment aussi le nerf de faire appel à un pro, c'est de pouvoir avoir le moins de manutention, de rationaliser au maximum et de simplifier. Et la simplification, c'est vraiment mon cœur de métier.
Bon, et je voudrais pas ne pas aborder la formation parce que du coup, vous êtes une vraie entreprise et vous proposez des formations qui marchent comment, mais du coup, assez rapidement.
Alors en fait, on a des modules qui s'adressent à tous. On a une formation. Alors on a un module qu'on va développer pour les personnes qui ont envie d'apprendre pour chez elles, qui va démarrer cet été. Ensuite, on a 5 modules pour les personnes qui veulent en faire leur métier, parce que là, il y a quand même plus de choses à savoir quand on veut accompagner d'autres personnes. Et puis, aujourd'hui, on cherche aussi activement une collaboratrice sur les Hauts-de-France
Ah bah tiens, ça tombe bien.
pour rejoindre le réseau. Donc
Donc,
voilà. Donc il y a toutes les infos sur le site bypauline.fr.
d'accord, super. Bon, alors qu'est-ce que vous diriez du rangement finalement? C'est grave ou c'est pas
grave?
Moi,
ce que je veux... Ben non, c'est pas grave, Alban, non. En fait. Il faut pas trop se prendre la tête avec ça. C'est vrai que ça fait partie du quotidien et que plus c'est rangé, plus c'est facile. Mais il faut pas non plus devenir obsessionnel du rangement. C'est pas non plus une solution. Et que avec des méthodes, une bonne énergie ou si vraiment besoin d'un accompagnement, on peut énormément gagner en compétences, en fait. Il y a des choses qui s'apprennent, il y a des méthodes pour apprivoiser le bazar.
Enfin, ça reste un éternel recommencement, quand même.
Oui, il faut que ce soit fait toujours au fur et à mesure. Mais ça, il faut avoir les bons réflexes. Et si on veut le faire régulièrement sans y penser, on va créer des automatismes avec des bons rangements.
Eh ben, nous arrivons au terme de cette émission, Pauline Levasseur. Et je vous remercie encore de nous avoir partagé votre expertise pour ranger notre maison et la garder en ordre. Mais le problème ne date pas d'hier, puisque Saint-Irénée de Lyon, qui a vécu au IIe siècle, disait déjà « Là où il y a de l'ordre, il y a de l'harmonie. Là où il y a de l'harmonie, il y a du temps pour tout. Là où il y a du temps, il y a du bénéfice. » Voilà. Alors, on n'a plus qu'à s'y mettre.